Bonsoir. Plus de 36 personnes massacrées samedi dernier à Beni, au Nord Kivu, au cours d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ougandais de l'ADF. Face à cette tragédie, les autorités congolaises décrètent un deuil national de 3 jours à partir de ce lundi et annoncent que les opérations militaires se poursuivent afin de mettre hors d'état de nuire ces terroristes. Comment analyser ce énième massacre? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 15 août 2016. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat professeur Arsène Mwaka, député national élu de Beniville au Nord Kivu. Il est cadre du parti politique DCFN, parti politique de l'opposition. Au professeur Mwaka, bonsoir.
Oui, bonsoir, Kelly.
Didier Bitaki, spécialiste en droit international, expert en question des groupes armés. Monsieur Bitaki, bonsoir.
Bonsoir.
Nyoni Bwanakawa, maire de la ville de Beni au Nord Kivu. Il n'est pas encore en ligne, il va nous rejoindre dans un tout petit moment, mais vous, auditeurs de Radio Kapi, vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Germain KMB depuis l'Ikasi. Décréter le deuil national ne suffit pas. Le gouvernement doit par contre monter des stratégies pour bouter loin de la RDC tous ces criminels qui tuent, violent et volent les paisibles citoyens. Que le gouvernement prenne ses responsabilités ou sinon l'est de la RDC n'est sera plus que de nom. Merci de nous suivre à Goma, au Nord Kivu, sur la 105.2. Et pour vous qui êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les provinces du Nord Kivu, encore des civils tués samedi en début de soirée dans la région de Beni. Les rebelles ougandais de l'ADF sont mis en cause. Alors que les autorités du pays ont donné un bilan des 36 morts, la société civile a revu à la hausse son bilan, parlant d'au moins 50 personnes tuées, plus de 24 maisons incendiées et un important déplacement des populations. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé à Beniville, le jour du massacre, Guy Maté, en ligne à Goma avec Gisèle Cage, nous font les points.
Bonsoir Gisèle Cage.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tout le monde.
Comment les massacres des populations a-t-il pu être perpétré à Beni alors que les forces de sécurité sont dans cette ville?
Il faut dire que ces événements malheureux ont eu lieu entre 17h30 et 21h en cellule Mbelou au quartier Rwangoma dans la commune Béou. Les EDF en provenance certainement du parc national des Virunga ont tué sur leur passage à la machette et à la hache des populations trouvées en dehors et dans leurs habitations, tout comme ceux qui revenaient de leurs champs. D'après nos informations, les forces de sécurité auraient été alertées quelques minutes auparavant par les habitants du quartier Païda, qui avaient aperçu donc une colonne de ces combattants ougandais se diriger vers Kasanga et Rwangoma, mais aucune disposition n'aurait été prise pour contrer l'action de ce rebelle. Finalement, le pire est arrivé et a provoqué l'émoi au sein de la population locale qui est tout de suite descendue dans la rue, notamment pour exiger la démission de certaines autorités du pays. On parle d'au moins 50 civils tués, selon la société civile et d'autres sources locales. Jusque-là, donc, les autorités, eux, maintiennent le bilan de 36 tués.
Et quelles ont été les réactions après ces nouveaux massacres?
La toute première réaction a été celle de la société civile de Beni. D'après son président, la société civile a toujours demandé que les forces de sécurité et de renseignement puissent mettre en place une ceinture de sécurité autour de grandes agglomérations, mais cela n'a jamais été fait. Dans son communiqué publié dimanche, le Centre d'études pour la promotion, la paix, la démocratie et le droit de l'homme parle d'un acte de vengeance des EDF face aux revers leur infligés par les FARDC. Il y a plus d'une semaine à Mwalika notamment, le gouverneur du Nord Kivu a pour sa part dans un message de condoléances adressé aux populations du Nord Kivu fait un appel à tous les acteurs politiques et sociaux de ne ménager aucun effort pour unir leurs efforts à ceux des FARDC qui font actuellement face à une menace terroriste jamais vécue dans la région d'après ses propres termes.
Mais Gisèle, en dehors de ces réactions, quelles sont les dispositions qui ont été mises en place pour finalement sécuriser cette population des Beni?
Bon, selon le ministre Mende, la traque de ces rebelles s'est poursuivie. Un dispositif sécuritaire est également mis en place à Beni. Hier, lors d'une conférence de presse à Beni, le commandant de l'opération Sokola 1, le général Mbangu Marcel, a expliqué que les EDF opèrent parfois avec la tenue FRDC. Pour ce faire, la tenue de l'armée nationale congolaise va être changée.
Merci beaucoup, Gisèle Kage.
Merci.
Merci Guimaté et à Gisèle Kage. Depuis Goma, la réalisation me signale que le maire de la ville de Beni, au Nord Kivu, est en ligne. Monsieur Bwanakawa, bonsoir.
Bonsoir madame.
Alors, pour commencer, comment se présente la situation cette nuit à Beni?
Bon, depuis hier soir, en ville de Beni, depuis hier soir comme aujourd'hui soir, nous faisons face à une guerre psychologique sérieuse. C'est au niveau de tous les quartiers périphériques qu'il est dit que les ennemis sont présents là-bas. Et la conséquence, c'est que toute la population quitte les périphéries pour le centre-ville. Je peux vous témoigner qu'à présent, là, à présent, devant ma parcelle, il y a une cinquantaine de personnes qui ont quitté leur parcelle périphérique pour venir se réfugier au centre-ville. Je précise que il s'agit bel et bien d'une guerre psychologique à laquelle nous avons fait face depuis hier, et elle nous a poursuivis toute la journée aujourd'hui. Et nous continuons à y faire face jusqu'aujourd'hui.
Alors, monsieur le maire,
je voudrais préciser, s'il vous plaît,
allez-y.
Je voudrais préciser, et par rapport au reportage qui vient d'être fait par Madame Gisèle Kage de Goma, je voudrais préciser que les tueries ont eu lieu le samedi, c'est vrai, mais pas entre 17h30 et 21h. Mais c'est plutôt entre vers 15h30 et 18h30.
Merci pour la précision.
Ça, c'est une première précision.
Merci pour la précision.
Et
une
deuxième précision, les victimes, nous les déplorons sincèrement. Nous n'avons pas intérêt à revoir le bilan à la hausse ou bien à la baisse. Aujourd'hui, j'ai mis une commission sur pied qui est allée faire le décompte de toutes les dépouilles que nous avons enregistrées, et je précise qu'il s'agit bel et bien de 36 victimes.
Alors,
toute comptabilité faite.
Voilà,
36 victimes massacrées.
C'est le bilan officiel que vous donnez, vous, monsieur le maire. Entre temps, la société
je ne
civile,
donne pas, je,
la société
je ne donne
civile
pas
de
bilan officiel,
50...
mais je parle bien de bilan réel.
Alors, la société civile, elle parle de 50, au moins de 50 personnes tuées. Alors, monsieur le maire, comment vous expliquez ce énième massacre, sachant qu'il y a des opérations militaires qui sont menées à Beni pour traquer les EDF?
Madame, c'est comme toutes les autorités continuent à les souligner, nous faisons face à une menace terroriste. Une menace terroriste couplée d'une certaine guérilla. Les EDF, quand ils opèrent, ils ne sont pas en grand nombre. Par exemple, le massacre que nous avons enregistré le samedi passé, c'est vraiment dans des quartiers périphériques. Ils ont attendu les gens qui venaient des champs, des gens qui transportaient leur nourriture à partir des champs pour aller vers leur domicile ou bien résidence respective. Et ils leur ont tendu un guet-apens sous courant de la route. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui tombait dedans, et il était ligoté avant d'être assommé. Et comment expliquer cet énième massacre? Il y a plusieurs phénomènes qui l'expliquent. D'abord, toutes les fois que les autorités sont de passage dans notre contrée, je ne parle pas seulement du président de la République qui a été de passage ici, même le gouverneur lui-même, chaque fois qu'il passe, il y a toujours un acte de sabotage qui est posé.
Est-ce une façon de détruire les autorités congolaises?
Pardon, madame.
Est-ce qu'il y a une façon pour ces rebelles de défier les autorités congolaises?
Affirmatif, madame, affirmatif. D'abord, je peux confirmer que, effectivement, les EIDF sont aux abois. Par rapport à ce, avec ce qui a été dit par le CEPADO, les EIDF ont perdu leur base de Mwalika. C'est une base qui leur était très importante. Là, ils pouvaient retirer tout ce qu'il y avait comme nourriture et autre chose. Pour avoir perdu la base de Mwalika et puis la base de Kambi, il y a Miba. C'est une façon pour eux, et quand ils viennent s'apprendre à une grande agglomération comme la ville de Beni, une façon pour eux de vouloir contraindre les forces armées de la République démocratique du Congo, de retirer leurs forces, de retirer nos forces des premières lignes, et les retourner pour faire la protection des grandes agglomérations. Ou bien que notre objectif principal, comme le porte-parole de l'armée l'a dit aujourd'hui, c'est EIDF 0.
Alors, d'après nos informations sur place, monsieur le maire, les forces de sécurité auraient été, selon nous, je mets ça au conditionnel, alertées quelques minutes auparavant par les habitants du quartier Païda qui avaient aperçu une colonne de ces combattants ougandais se diriger vers Rwangoma, mais aucune disposition n'avait été prise pour contrer l'action de ces rebelles. Comment vous l'expliquez cela?
J'infirme cette assertion, madame. Et je crois avoir été la première personne à dire au commandant ville qu'il y avait une situation du côté de Rwangoma. C'était autour de 19h, à peine que je lui en ai parlé, que les premières forces ont été déployées dans ce coin-là. Et c'est alors qu'il y a eu échange nourri entre ces éléments et les premières troupes qui ont été envoyées. Et comme c'est une zone, vous l'avez appris, périphérique, et les EIDF, tout ce qu'ils ont fait, c'était battre en retraite vers le parc national de Zilla, qui n'est pas très loin.
Merci, monsieur le maire. On vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Arsène Mwaka, député national élu de la ville de Beni, au nord Kivu. Vous êtes cadre du parti politique du CFN. C'est un parti politique de l'opposition. Professeur, quelle est votre lecture par rapport à cette situation, ce nouveau massacre à Beni?
Oui, je voudrais d'abord présenter mes condoléances et profiter de ce micro à la population de Beni, de Butembo, du Nord Kivu et à tous les Congolais qui ont perdu les leurs dans ce massacre. Je voudrais aussi exprimer toute ma compassion au maire de ville, puisque je suis à Beni, j'ai vécu hier sur calvaire et je ne souhaitais pas être à sa place puisqu'il devait faire face à un événement très malheureux sans les moindres moyens, sans les moindres soutien des autorités au niveau national. Provincial, et je déplore et je dénonce cette manière de gérer des catastrophes et j'encourage le gouvernement à déployer des moyens à la base, parce que j'ai quand même vécu des événements où, pour enterrer les morts, pour faire face à la fougue de la population, le maire n'avait pas suffisamment de moyens. Et donc, je suis désolé de ce qui s'est passé. Alors, pour la lecture, je voudrais dire que c'est comme d'habitude, c'est-à-dire les éléments supposés de l'EDF se déploient. Il y a d'abord des rumeurs, il y a des informations qui sont échangées avec les services de sécurité, suivies des militaires. Il y a des chefs coutumiers qui nous saisissent, c'est la population qui nous saisit sur des vagues de rebelles qui font mouvement habituellement, qui chantent à longueur de journée. Non loin de Lecha, Mangoli Kélé et non loin de Mwalika. Ça fait des mots que la population a dénoncé, des gens qui s'entraînent et qui chantent à haute voix et qui nous attendent et sans qu'il y ait vraiment de réaction. Et donc, ce qui est arrivé, j'estime que c'était prévisible, d'autant plus que la journée, les populations de Versalia, Païda, Rwangoma et autres, au vu des colonnes, se déplaçaient et il y a des gens, notamment des chefs coutumiers, des chefs de quartier, qui ont informé l'armée. Et malheureusement, il y a eu de la confusion. Il y a parmi les officiers certains qui estimaient que c'était leurs éléments qu'eux-mêmes ont déployés. Et c'est dans cette confusion que la population a été massacrée sans qu'il y ait le moindre secours, et ainsi de suite. La deuxième chose que je déplore, c'est que J'ai trop attendu le discours selon lequel Rwangoma c'est dans la périphérie de la ville. Je voudrais dire que Rwangoma est à deux kilomètres de la seule résidence du chef de l'État. Et donc ce n'est pas si périphérique que ça. Nous sommes dans la ville, là où les gens sont massacrés, à un endroit accessible, il y a une route, on peut s'y déployer avec des jeeps, et malheureusement, les gens sont massacrés comme ça a été dit. Et dès lors qu'il y a une bonne des rescapés qui ont couru vers le chef de quartier, pour informer, c'est à côté du village de quartier, et cet homme était massacré. C'est-à-dire qu'il y a une défaillance claire, et je pense que les auditeurs sont en barrière des enjeux puisqu'il y a béni. Je pense que l'état-major et la plus haute hiérarchie du pays doivent pouvoir l'ordre pour que l'enquête soit faite, pour que les autorités qui ont failli répondent à leurs actes. Je crois que ça, c'est la réaction la plus logique, dès lors que pratiquement il y a eu une défaillance claire.
Ah, vous voilà, pensez, que, sûr, vous pensez que, professeur, cette situation pouvait être évitée?
Absolument. Parce que pour être évité, je donne un exemple hier. Le maire de ville et toute la colonne du comité de sécurité se déploie dans le quartier pour ramasser le corps. Et dès que le corps, l'essentiel des corps, est ramassé, tout le monde rentre. On laisse le quartier vide, sans un seul policier, sans un seul militaire de FARC. Et le maire de ville est rentré le soir avec quelques personnes qui ont été appréhendées par l'ennemi. Et ces gens ont témoigné que l'ennemi a parlé avec un acteur du Rwanda. Et le maire de ville a fait hier soir pour dire que le quartier était laissé vide et les gens qui ont tenté d'aller déménager ont retrouvé encore l'ennemi sur le terrain, pas plus tard qu'hier. Donc c'est déplorable.
Et donc, si on vous comprend bien, professeur, qu'il n'y a pas une présence militaire dans cette zone?
Absolument, je n'ai pas entendu le discours de terrorisme et de tout le reste. Je crois que la seule erreur que j'ai déjà créée, c'est massacrer la population. Mais pour tout le reste, quand je suis que la base de Malika était occupée par ces gens, est-ce qu'un terroriste a une base identifiable? Est-ce qu'un terroriste peut être localisé? On le localise, on dit il est à tel endroit et personne ne le suit et on dit que c'est un terroriste qui vient à l'improviste. Parce que si on veut comprendre ce que c'est avec la château protecteur dans beaucoup de pays au monde, il est clair qu'un terroriste, c'est quelqu'un qui vous surprend. Mais dès lors qu'on vous dit qu'il est en train de se déplacer, et que vous ne voulez pas déployer des éléments, est-ce qu'on doit continuer avec ce discours de djihadisme et de terrorisme? Je pense qu'il faut prendre la mesure des choses, il faut attaquer l'ennemi, et c'est cela qui reste, c'est ce qui manque dans toute cette histoire.
Merci, professeur Arsène Mouaka, Didier Bitaki, spécialiste en droit international et expert en question des groupes armés. Didier Bitaki, quelle est votre lecture à vous de la situation de Béni?
Merci beaucoup, madame. Je salue d'abord le professeur Ampassa et le maire de la ville de Béni. Le professeur que j'ai perdu il y a longtemps, mais au moins je me réjouis d'être en cette émission. Madame, d'abord, je présente mes condoléances à la population de Béni tout entière. Mais à part ces condoléances, c'est parce que franchement, on est fatigué de transmettre ce genre de messages chaque jour sur ce qui concerne la situation dans les territoires de Béni et dans la ville exactement. L'analyse que nous avons à faire vis-à-vis de cette question de Béni, c'est justement la déception. D'abord, un sentiment de déception et ensuite, une interpellation. C'est tout simplement, si vous suivez le maire de la ville, les aveux qu'il est en train de produire, et ce que dit le professeur qui est sur place à Béni, vous constatez que quelque part, il y a de la négligence de nos soirs. Il y a de l'incompétence même de la part de ceux qui étaient censés assurer la population, à assurer la sécurité de la population. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Dans un premier temps, les FARDC venaient de libérer plusieurs localités qui étaient jadis tenues par les rebelles, notamment Darlik, Mwalika, Nabi Mosquée, Nabi Park et Nabi Cheferi. C'est là qu'étaient situés les bastions, les principales bastions des rebelles. Mais après que les FARDC aient récupéré cet endroit-là, effectivement, on devait prendre des mesures parce que ces rebelles ne devaient pas rester seulement en train d'errer dans la bourse, alors que leur rôle, c'est d'assommer la population pour intimider, pour défier les FARDC. Donc on devait absolument procéder par des mesures de protection de la population dans les agglomérations pour éviter que des massacres ne se produisent en revanche de la part de ces rebelles. Malheureusement, comme vous le suivez bien, le maire de la ville a reçu la population se plaignant d'avoir aperçu les rebelles. Mais qu'est-ce que le maire de la ville a fait
Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, si le maire a contacté les autorités militaires, quelles sont les dispositions que les autorités militaires ont prises pour empêcher que des massacres ne se produisent? Si alors les militaires n'ont pas réagi, mais écoutez, qu'est-ce qui pouvait arriver? On a donc autorisé aux rebelles de massacrer nos concitoyens, ce qui est déplorable. Donc pour moi, l'analyse concrète par rapport à cette question, c'est que tout ce qui était sur place devrait répondre devant la justice pour une infraction qui concerne la non-assistance à personne en danger. C'est justement ça, c'est sur quoi il devait être poursuivi. En deuxième lieu, on pourrait peut-être supposer qu'il y a une certaine connivence entre ceux qui sont sur place et les rebelles, parce que simplement, dans l'analyse que vous devez faire de manière concrète, comment expliquer que ce militaire arrive en tenue FRDC et que les FRDC portent la même tenue? Qui a donné ces uniformes à ce rebelle-là? Si peut-être de l'extérieur, il pourrait avoir une aide qui s'organise quelque part. Comment est-ce que les FRDC ont su que réellement les rebelles qui venaient étaient en tenue militaire FRDC alors qu'ils ne sont pas intervenus, ils n'ont même pas tué un seul? Comment expliquer cela? C'est-à-dire qu'ils savent, ils transmettent des uniformes militaires aux rebelles. Ça, c'est une affirmation gratuite que je fais, mais au moins, selon l'analyse qu'on doit déduire de tout cela, c'est que on doit savoir qui a informé les femmes de ce que ceux qui ont tué les Congolais à Beni portaient l'uniforme militaire congolais. Voilà toutes ces questions. Donc,
mais la population a dénoncé cela. La population a dit que ces gens avaient une tenue qui ressemblait à celle des FRDC.
Mais la même population fustige l'inaction des FRDC qui étaient informés. Est-ce qu'ils se sont retrouvés en face d'une confusion par rapport à la tenue militaire qu'ils portaient? Il y a de l'amateurisme dans cette question, madame. Je pense que la meilleure façon, c'est de situer d'abord les responsabilités au niveau du commandement. Pourquoi les FRDC ne sont-elles pas intervenues? La MONUSCO étant sur place, quelles sont les actions, quelles sont les dispositions que la MONUSCO a prises pour empêcher? Parce que dans la mission, entre autres, de la MONUSCO, il y a également la protection de la population civile. C'est la principale. Pourquoi elle n'est pas intervenue pour protéger la population contre ces rebelles qui étaient déjà annoncés et tout le monde savait qu'ils se trouvaient dans la zone? Donc, il y a de l'amateurisme, il y a de la négligence notoire et ça révolte. On ne peut pas tolérer que ce genre de cas se produise. Chaque jour, et qu'on doit nous citer, oh, il y a tel bilan, il faut un délai national, c'est parce que le président ou une autorité était dépassée. Pourquoi les rebelles doivent défier les autorités qui disposent de la puissance publique pour neutraliser toute force négative? Donc, il y a ou soit de l'incompétence, ou soit de la négligence, ou soit tout simplement, c'est pas ce qu'on est en train de faire au pouvoir. Simplement, c'est ça, pas plus que ça.
Alors, merci Olivier Litaki. Monsieur le maire, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga.
François Mouila de Lubumbashi, en scrutant bien cette humiliation, ça nous pousse à réfléchir deux fois. 1. Pourquoi l'État reste toujours amorphe en dépit des alertes faites par la société civile? 2. Pourquoi le gouvernement ne s'est jamais pensé sur aucun rapport dont certains doit directement nos commandants de FARDC et certains politiques? 3. Que justifie cet appel à la communauté internationale au moment où c'est le même gouvernement qui refuse cette coopération avec la MONUSCO? 4. Est-ce une distraction que le gouvernement veut nous plonger nous parlant des djihadistes ou islamistes dont il ne revendique pas ses carnages? À mon avis, le gouvernement devrait faire une enquête préalable au lieu de faire l'apologie des islamistes.
Monsieur Bonakawa.
Oui, madame.
Vous avez suivi les préoccupations de cet auditeur?
J'ai suivi les préoccupations, mais ils sont au nombre de 4. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait pas toujours attention à ce que dit la société civile? Et les réactions du gouvernement par rapport à tout ce qui se passe. Bon, la troisième préoccupation, c'est presque les opérations conjointes entre, disons, la coopération bilatérale entre la MONUSCO et le gouvernement. Et enfin, l'apologie du djihadisme. Je vais répondre à l'interlocuteur en lui disant que les revendications de la société civile ont toujours fait l'objet d'une bonne écoute de la part de notre gouvernement. La preuve, on m'a donné la société civile, cette fois-là je parle du territoire de Ouïtcha, du territoire de Beni-Ouïtcha, qui est voisin au territoire de Beni, quand il y a eu des problèmes là-bas, la société civile avait exigé que le ministre de l'Intérieur, ou bien tout au moins alors celui de la Défense, arrive jusqu'à Ouicha pour recevoir les doléances qu'il y avait là-bas. En toute humilité, c'est le président de la République qui s'était déplacé personnellement de Kinshasa jusqu'à Ouicha.
Alors, monsieur le maire, est-ce qu'on...
Et à l'occasion.
On peut parler de la situation de samedi. Vous avez été alerté, mais aucune disposition n'avait été prise. Comment? Pourquoi?
Madame?
Vous me suivez, monsieur le... Vous me suivez, monsieur le maire?
Oui, allô?
Allô, monsieur le maire, vous m'entendez?
Oui.
Alors, je disais, est-ce qu'on peut revenir sur la situation de samedi? La société civile, vous avez été alerté par les populations, aucune disposition n'a été prise, aucun militaire n'a été envoyé là-bas pour protéger la population. Pourquoi?
Mais madame, je crois avoir dit dans mon exposé, avoir affirmé que, aussitôt que l'armée avait été informée, il y a des troupes qui ont été envoyées. Et contrairement à ce que le professeur a dit, c'est vrai, à vol d'oiseau, Rwangoma est situé du centre-ville de plus ou moins 2 ou bien 3 kilomètres, mais c'est un milieu périurbain. Et là où les événements s'étaient passés, c'est effectivement à la périphérie de la ville. Quand l'armée avait été informée directement, elle est partie. Vous savez, madame, le gouverneur...
Et elle n'a arrêté aucun assaillant, n'a neutralisé aucun assaillant, monsieur le maire?
Allô?
Monsieur le maire, vous m'entendez?
Oui.
Alors,
oui.
L'armée a été déployée, mais elle n'a neutralisé ni attrapé aucun assaillant?
Madame, je vous ai dit que les événements avaient commencé autour de 15h30. Et c'est autour de 19h que nous avons eu les premières informations. Aussitôt après, l'armée a été déployée et il y a eu échange de tirs. Et j'ai confirmé que, et comme c'était un milieu périurbain, les assaillants en ont profité pour battre retraite du côté du parc. Ça, au moins, je crois l'avoir dit et je crois m'être fait attendu. Et c'est comme ça que je voulais dire, par rapport à la situation que nous traversons ici, il est difficile que l'on mette un élément des forces armées sur chaque avenue, voire même sur chaque rue. Et c'est comme ça, vous le savez, madame, aucune armée du monde ne peut gagner la guerre sans pour autant qu'elle n'ait l'appui de toute la population. Quand nous parlons du djihadisme, ce n'est pas que nous faisons l'apologie de ces gens-là. De par tous les actes qu'ils ont posés depuis 2014, l'année de début de leurs affres sur la population, leur mode opératoire indique bel et bien que vraiment cela relève du terrorisme.
Mais n'ont jamais rien revendiqué ces gens, ces terroristes.
Madame, s'il vous plaît, quand on regarde ce qu'ils font, c'est à cause de leur mode opératoire que l'on conclut au fait qu'ils doivent être d'une classe donnée. Et je vous confirme que l'armée fait de son mieux pour venir après eux de manière à pouvoir
merci,
les mettre
monsieur
à...
le maire, professeur, monsieur le maire, merci.
Madame, s'il vous plaît.
Merci, on va vous redonner la parole. On va respecter le temps. On va respecter le temps, monsieur le maire. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Arsène Mouaka, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga.
Mave Kisambika, je vous appelle à partir de la ville de Kananga dans la province de Kassai Central. En tout cas, trop c'est trop avec les massacres meurtrier que la population congolaise en général et celle de l'est du pays en particulier continue à connaître. Les autorités du pays doivent savoir que les Congolais n'ont plus confiance en leurs déclarations et promesses théoriques. Maintenant, d'aucuns ignorent que le pays roule en insécurité incontrôlable et que les autorités se trouvent bloquées et limitées sur tous les plans pour pouvoir stopper cette hémorragie.
Professeur Arsène Mouaka, on sait que, pour compléter Emavé, on sait que la rencontre entre le président Kabila et Museveni de l'Ouganda a suscité beaucoup d'espoir au sein de la population des Béni, mais avec ce qui vient d'arriver, est-ce que la population va continuer à espérer, doit-elle toujours espérer retrouver la paix un jour?
Oui, donc je ne peux pas être pessimiste ni défaitiste. Je crois qu'un jour nous serons à paix, mais j'en appelle à l'effort. L'effort sur les terres. Bon, maintenant, si on peut y ajouter un peu de diplomatie, je ne peux pas me poser, mais je crois que le plus prioritaire, c'est la réorganisation des troupes sur le terrain. C'est la mobilité des troupes, c'est la capacité à pouvoir déployer très rapidement les hommes. Si nous encourageons l'armée, je sais qu'elle a déjà fait beaucoup. Elle fait beaucoup, je ne veux pas méconnaître ce travail, mais je l'encourage à faire mieux. Il est inadmissible que la même armée demande à la population de quitter la périphérie de la ville et de rapprocher les centres-villes. Et quand la population a des centres-villes, eh bien, on commence à tuer à Poitiers, à Tenambo, au tuer encore la deuxième fois sur le même lieu. Il n'y a aucun dispositif spécial qui est pris. On change de ville en ville à Béni, au tuer, qu'importe le mot qu'on va utiliser de toutes les façons. Tous les Congolais doivent savoir que la cinquantaine déjà qui a été tuée en ville, c'est à pleine ville de Béni. Maintenant, on peut utiliser tous les mots pour désigner le quartier, mais du moins, c'est un quartier de la ville de Béni, et c'est dans la ville, c'est le plus, dans des champs isolés où les gens ont été tués, c'est des gens qui les ont embusqués sur les exactement sur les riz, sur les petits des champs. Alors, disait que les ennemis sont entrés, qu'ils voulaient le mettre à l'abri, et c'est comme ça que très facilement ils veulent devenir une vingtaine, mais après ils sont rentrés dans la ville filière, tous ceux qui voient nos parents et autres, et c'est comme ça que les gens sont morts dans la ville, alors que tout a été dénoncé. Donc, je ne peux pas être pessimiste. J'encourage le gouvernement, j'encourage l'armée nationale, j'encourage les Congolais à continuer à dénoncer, mais je voudrais que les stratégies soient correctes, c'est-à-dire que ce soir, toute la partie nord de la province vient de devenir le centre ville. Le maire de ville qui ne vous dit pas la vérité. Les gens sont dans sa cour, les gens sont dans sa rue, tout simplement parce qu'il y a une erreur, il y a un officier qui a communiqué que dans le maire, les éléments de femmes et ceux qui seront les autres seront à tenir indiqués. Et puis, du coup, la population voit que d'autres éléments continuent à porter la tenue et s'expriment à la vie sur les 8 heures à filer. C'est tout le quartier de la partie nord de l'Ukraine, nous en bas, d'Abelis et autres, qui ont fui, et tout ce soir, les gens dorment à la belle étoile. À la belle étoile, je crois qu'on doit améliorer le travail. Il y a un travail qui n'est pas bien fait, et j'en appelle à toute la hiérarchie, à l'inspection, de l'armée et tout le reste, qu'on vienne aider les autorités qui sont ici pour gérer cette situation dramatique. Les gens souffrent, et il n'y a pas une guerre psychologique, c'est. Justement, des mauvais consignes qu'on donne, des choses contradictoires qui se passent sur le terrain. On vient aider les autorités à gérer cette situation. Nous sommes la même République, mais on essaie de se créer à Kinshasa et continuer à faire du communiqué et autres alors que les gens
Merci professeur. Là, vous avez commencé déjà à proposer des solutions pour éviter ces massacres à la longue. Et donc, qu'est-ce qui peut être concrètement fait pour éviter ce genre de tragédies? C'est la deuxième partie de notre émission. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU dans le Grand Lac condamne dans les termes les plus forts cette attaque contre les civils et exprime ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la RDC. Saïd Djinit réitère son plein appui au FRDC et à la MONUSCO dans leurs efforts pour apporter la sécurité dans les zones touchées dans le pays. Au micro de notre confrère Jérôme Longwe de la Radio des Nations Unies à New York, il évoque quelques pistes de solutions pour mettre un terme à ces massacres à répétition à Béni. On l'écoute.
C'est une réaction d'outrage et de condamnation très vive et très forte. Ce rythme de massacre contre des populations innocentes par les ADF est inacceptable. Et c'est pour ça que, à l'instar d'autres responsables de la région, nous estimons absolument, comme cela a été souligné lors du sommet de la conférence des Grands Lacs, le dernier sommet à Luanda, il est important qu'il y ait une coopération régionale parce que je crois que les chefs d'État ont pris la mesure de la dimension régionale du recrutement dans la région et nous encourageons la coopération régionale pour que les efforts combiné des forces de la RDC avec le soutien de la MONUSCO soit encore plus efficace. Il y a aussi l'importance de la collaboration des populations. Je crois qu'il est important que les populations collaborent avec les forces armées de la RDC et de la MONUSCO pour mettre en meilleure posture pour vraiment s'attaquer à cette question. Mais il y a aussi évidemment des problèmes de financement de ces groupes armés, aussi bien pour les ADF que pour les FDLR. Et c'est pour ça que les Nations Unies, travaillant avec les ONG sous-régionales et l'Union africaine et les partenaires, nous souhaitons vraiment prendre des initiatives sur les questions de l'exploitation illicite des ressources naturelles pour, comme faisant partie de la stratégie pour lutter efficacement contre ce phénomène des forces négatives à l'est de la RDC.
C'était la Saïd Dinit, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs, qui proposait quelques pistes de solutions pour mettre un terme à ces massacres à répétition à Goma. Didier Bitaki, avant de vous donner la parole pour les solutions, on va prendre cette réaction qui nous vient de Kinshasa pour vous.
John Kamangou, depuis la ville de Kinshasa. Partant du séjour récent du chef de l'État, cette contrée devrait, à mon avis, bénéficier d'une forte sécurisation. Alors, 1. Pourquoi se tuer de plus alors que plusieurs opérations militaires y sont menées? 2. Où étaient les FARDC et surtout la MONUSCO avec tout ce qu'elle a comme matériel de surveillance pour que les auteurs de ces carnages puissent commettre leur sale besogne sans être inquiétés? 3. Penser aujourd'hui au changement des couleurs de la tenue des FARDC ne serait qu'un cercle vicieux tant que le mystère autour de l'obtention des anciennes tenues par ces rebelles restera caché. Ceci étant, un audit profond dans la gestion des FARDC et sa collaboration avec la MONUSCO doit être effectué afin d'établir les responsabilités, car trop c'est trop.
Didier Bitaki.
Je remercie l'auditeur parce que il est en train d'épingler question après question telle que le dossier se présente. Je voudrais juste clarifier certaines choses par rapport à l'implication ou à l'action des FARDC sur le terrain. Et cela va vous permettre peut-être, ou permettre à tout celui qui nous écoute, de bien comprendre pourquoi est-ce que les FARDC sont affaiblis. La première des choses, les effectifs des FARDC actuellement sont à renouveler ou à renforcer au Nord-Kivu. Parce que vous trouverez un régiment au sein duquel on compte des bataillons qui devaient avoir à peu près 250 éléments, qui ne compte que 20 soldats aujourd'hui. Les autres, certains sont morts, les autres se sont volatilisés dans la nature ou désertés tout simplement, les autres ont vieilli, et parmi les 20 qui doivent être retrouvés sur terrain, on y trouve des éléments qui ne sont pas payés, mal nourris, d'autres n'ont pas d'armes. Ça, il faut reconnaître, c'est parmi les éléments qui font qu'aujourd'hui on fait porter la responsabilité de OFR de ces pauvres. Inaction, mais malheureusement, elle ne peut rien faire sans qu'elle ne soit restructurée. Deuxième chose, la ration militaire, des militaires qui n'ont pas mangé. Mais la ration est envoyée chaque jour par le gouvernement à arriver sur le terrain, soit on détourne, ou soit on garde l'argent, ou soit on en fait autre chose, et les militaires sont en train de souffrir sur le terrain sans qu'aucune action ou aucun regard ne leur soit apporté. Troisième chose, on accuse la population de n'avoir pas coopéré. La population va coopérer avec qui n'est pas engagé, qui n'est pas prêt à mener une action tout simplement parce que la personne ou même l'élément qui devait agir est maltraité par sa hiérarchie militaire.
Qu'est-ce qu'il faut faire, Didier Bitaki, pour éviter ce genre de tragédie à la longue?
Ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de tragédie, je pense que la question dépasse même la dimension régionale. Ça va jusqu'au niveau international. Pourquoi? Il y a l'Ouganda qui dispose des éléments au sein des ADF. L'Ouganda joue à l'hypocrisie avec les Congolais. Le Rwanda également. On parle de gens qui... On annonce des gens qui parlaient qu'il y avait dans ces opérations, que la population a suivi. Ces gens-là viennent du Rwanda. Il faut d'abord les identifier, demander aux Rwandais de sécuriser les frontières pour éviter les infiltrations. En interne même, il faut réorganiser l'armée. À part la réorganisation de l'armée, comme la solution n'est plus professionnelle ou classique, il faut recourir à des solutions locales. Et ces solutions locales peuvent peut-être permettre à ce qu'on identifie et qu'on boude dehors ces rebelles.
Et quelles sont ces solutions locales?
Nous sommes à la radio, je ne veux pas dire qu'il faut changer la tenue militaire comme un amateur, mais je vous dis qu'il existe des solutions locales que nous pouvons proposer parce que nous les connaissons. Nous les savons bien, mais nous ne pouvons pas les étaler aux médias pour alerter les ADF que demain ça sera telle ou telle autre stratégie qui sera utilisée, comme les autres l'ont dit juste pour les alerter, afin qu'eux aussi changent de tenue. Non, ça c'est de l'amateurisme. Je pense que la meilleure façon de faire, c'est de définir, combiner toutes les méthodologies ensemble pour sortir la population de ce chaos dans lequel elle se trouve. Sinon, sans quoi, je pense que tout ce que toutes ces condamnations, ce que les autres peuvent chercher à initier, ça ne sortira pas le Nord Kivu de cette situation si on n'implique pas les énergies possibles qui connaissent et qui ont la maîtrise de ces domaines.
Merci Didier. Monsieur le maire, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sécuriser cette population de Beni?
Madame, avant que je ne réponde à votre question, permettez-moi d'exprimer mon indignation par rapport à votre façon d'orienter le débat. Il y a autant de questions qui sont restées sans réponse qui, et disons, autant de questions qui ont été posées par mes co-débatteurs, croyant que je pouvais bien y amener suite. Mais je n'ai pas eu le temps.
Ne vous inquiétez pas, vous êtes en avance, monsieur le maire. Ne vous inquiétez pas, on a un chrono et vous êtes en avance par rapport aux autres.
C'est ce que vous allez vous dire, mais quand vous m'avez invité, c'était pour permettre que je puisse expliciter certains points. Et alors, quand vous les passez outre, je développe en moi un sentiment de vexation.
Désolé, monsieur le maire. Alors, est-ce qu'on peut passer aux solutions?
Madame, je vais d'abord confirmer qu'il n'y a pas eu une cinquantaine de personnes qui ont été tuées. Je confirme qu'il y a eu 36 personnes.
Vous l'avez déjà dit.
Mais bilan réel.
Vous l'avez déjà dit.
C'est la première. Ok, je le confirme. La solution. La solution, c'est comme M. Bitakura et M. Le co-débatteur l'a dit.
Le professeur Maka.
Le problème de Beni n'est pas seulement un problème régional au niveau des Grands Lacs, il dépasse, c'est comme ça que nous disons, nous sommes en train de faire face à un problème de terrorisme, la solution, nous voulons bien avoir la compassion internationale pour voir ce phénomène trouver fin. Il est vrai, nous avons la MONUSCO avec nous ici. Et là, elle est censée avoir tout le matériel possible pour venir en aide au FRDC, et permettre que les actions militaires qui sont menées par les troupes des FRDC soient couronnées de succès. Nous pensons que, et aussi et les troupes de la MONUSCO, il y a les drones qui avaient été mis en compétition. À un moment donné, ils sont partis. En fin de compte, nous avons compris que peut-être qu'ils ont aussi prouvé leur inefficacité. Donc, la première solution, nous pensons que la communauté internationale doit prendre ce phénomène à cœur. Il doit savoir que la ville et le territoire de Beni sont composés par des gens qui ont aussi droit à la vie. La même compassion qu'on porte aux Français et à toutes les autres nations, cette même compassion mérite d'être tournée vers la République démocratique du Congo, et principalement vers la ville de Beni et le territoire de Beni.
Merci, monsieur le maire. On va considérer cela aussi comme votre conclusion. Il nous reste au moins de 2 minutes pour mettre fin à cette émission. Professeur Arsène Mouaka, votre conclusion.
3 niveaux de solutions. Premièrement, c'est au niveau local. Les autorités locales, le comité de sécurité local ne peut pas sécuriser la ville s'il n'y a pas de moyens. Je répète, le ministre de l'Intérieur, le général Bisengimana doivent doter la police, parce que si la police était en ordre, si la police était en nombre suffisant, il n'y aurait pas autant de morts. Deuxième niveau de solution, c'est au niveau de l'armée. Tous les moyens doivent être mis en marche, comme cela a été fait à Rutshuru et à Chose, à Nyiragongo, et ainsi de suite, pour que la population de Beni retrouve sa paix. La nature de la République, tout ce qu'il y a comme gros moyen pour la défense de la République, doit être vu à Beni. Pourquoi il n'y en a pas? Troisième niveau de solution, c'est la MONUSCO. Je me demande si les balles de la MONUSCO sont faites pour expirer, être brûlées à Mambango, dans la périphérie de Beni, au lieu d'aller les tirer sur l'ennemi. Il y a la brigade, son travail, c'est de tirer sur l'ennemi. Mais je les ai vus patrouiller la journée dans la partie ouest de la ville, alors que le phénomène qu'on déploie dans la ville se passe à l'est. Je ne comprends rien.
Merci.
Je ne comprends rien. Je pense qu'au niveau international, on doit enquêter sur la MONUSCO et surtout sur la brigade d'intervention.
Merci, professeur Arsène Mouaka. Didier Bitaki, votre conclusion.
Conclusion, c'est que j'en appelle au président de la République, au ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur et au chef d'état-major général de bien réfléchir sur la manière de diriger les forces armées de la République démocratique du Congo, de un, De deux, de ne compter plus sur la solution internationale que sont en train de proposer différents intervenants, mais plutôt de mobiliser les énergies nationales, provinciales et locales, afin de trouver une propre solution à la Congolaise qui...
Merci Didier Bitaki, c'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.